Chers auditeurs, nous sommes vendredi le 8 mai et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, nous vous invitons, chers auditrices, chers auditeurs, à nous contacter au 514-273-4302 ou bien nous écrire info à commercialmage-québec.com. Nous sommes là pour vous servir. Si vous êtes victime ou témoin d'un abus de pouvoir ou d'une injustice et vous souhaitez la dénoncer publiquement, nous vous céderons la parole, justement, nous céderons ce micro de cette antenne qui est réservée à cet effet. Alors, ne tardez pas à nous appeler. La dénonciation de l'abus du pouvoir et de l'injustice est le devoir de chaque citoyen envers cette société, une société qui est la nôtre. Alors, chère auditrice, cher auditeur, la vague de la violence policière qui secoue les États-Unis a fait une fois encore un mort il y a 3 semaines. Un jeune afro-américain de 25 ans a succombé à ses blessures après une intervention musclée de la police de la ville de Baltimore. Une nouvelle victime vient de s'ajouter à cette liste qui continue à faire honte à une politique apparemment complice de remettre volontairement l'impunité policière à plus tard. Remettre les bavures policières en bloc à plus tard est un remède gouvernemental malsain, connu et reconnu dans toutes les politiques actuelles. Alors l'État qui refuse de faire face aux bavures policières chaque fois qu'elle est butée devant un cadavre ou devant des blessures graves ne peut être que responsable, voire complice, et sa responsabilité ne peut être écartée sous aucun motif. L'impunité, chère auditrice, cher auditeur policière, l'impunité policière devient de plus en plus inquiétante au point où certaines personnes se demandent jusqu'à où s'arrêtera cet enjeu. Les bavures se multiplient, les craintes s'installent au sein de la population et tout le monde se sent impuissant de faire changer quoi que ce soit. Le Québec ne s'écarte pas de la règle. Alors la mort de ce jeune afro-américain nous interpelle tous parce qu'elle nous rappelle la mort d'un homme au Québec, M. Jean-Pierre Lizotte. Alors M. Jean-Pierre Lizotte, qui est mort à peu près dans les mêmes circonstances, M. Lizotte n'a jamais pu se remettre sur pied. Après l'agression sauvage qu'il a subie de la part des policiers, l'agent Giovanni Stante et Sylvain Fouquette. Je vous rappelle, chère auditrice, cher auditeur, que M. Lizotte était conduit à l'hôpital après avoir eu plusieurs fractures au niveau du visage suite au coup qu'il avait reçu de la part de l'un de ses policiers. Mais une fois jeté dans la voiture de la police, les policiers n'ont pas attaché sa ceinture de sécurité. Résultat, alors regardez, l'afro-américain de Baltimore avait la colonne vertébrale sectionnée en deux, celle de M. Lizotte. La même chose, tous les deux ont vécu quelques jours dans le coma, puis ils ont succombé malheureusement à leurs blessures. Alors dans les deux cas, il s'agit purement d'un homicide et pour le peu involontaire. Alors à Montréal maintenant, les deux policiers impliqués dans la mort de M. Lizotte étaient acquittés de toute accusation, même si la déontologie policière, ironiquement, avait imposé en février 2009 à ces deux policiers une suspension de 25 jours. Le commissaire avait reproché à ces deux policiers impliqués d'avoir démontré de la négligence et de l'insouciance à l'égard de la santé et de la sécurité de M. Lizotte. À l'inverse, les policiers impliqués dans la mort de ce jeune afro-américain de Baltimore sont présentement derrière les barreaux. Ils sont accusés d'homicide involontaire. L'un d'eux risque une lourde peine. Maintenant, est-ce que le vase est débordé au point que c'est devenu trop évident, même un peu risqué pour l'État, de rester les mains croisées? Pour la première fois, il y a un pas mis en avant contre l'impunité policière. Et ce pas ne vient pas de l'État ou d'une politique quelconque, mais plutôt d'un peuple qui a eu ras-le-bol de la politique de l'impunité policière. Il faut qu'à un certain moment donné, cette politique change. L'acte de la manifestation est souvent un réveil pour l'État, un balise de réflexion, un moment opportun de changer de voie. La politique de l'Autriche ne fonctionne plus. Elle fait plus de mal que de bien. Voulez-vous fermer la fenêtre ? Alors ici au Québec, chère autrice, cher auditeur, la parole d'un policier, c'est la parole de Dieu le Père. Personne ne va croire la victime d'une brutalité policière, ni la cour, et encore moins les supérieurs du corps policier, sauf bien sûr, et si vous êtes chanceux d'avoir été filmé par un autre citoyen. Alors je dis bien, lors de la manifestation de ce 1er mai, plusieurs actes de brutalité policière ont été enregistrés. Plusieurs personnes nous ont appelés, mais de crainte de représailles, ils refusent de témoigner. Parmi eux, des victimes qui sont poursuivies par des fausses accusations, comme voie de fait contre un agent de police, ou entrave à mon œil, et cette série de conneries utilisées et réutilisées pour décourager toute dénonciation. Est-ce que, je dis bien, est-ce une commande politique pour mettre fin graduellement au droit de manifester? Je vous laisse la réponse, chère auditrice, chère auditeur, mais une chose est certaine, cette commande politique a de l'effet sur les jeunes qui ont trop peur de participer à d'éventuelles manifestations. L'État perd beaucoup, je dis bien, perd beaucoup avec ce stratagème en enlevant aux citoyens le droit de manifester sur le début d'une fin qui s'annonce tristement par un esprit malsain. Étrangler la démocratie à petit feu et vous allez assister à la mort d'une société qui ne se relèvera plus jamais. Alors ça m'a dégoûté justement, cher Olivier, cher Olivier, quand j'ai lu dans la presse de cette semaine, à la première page, un article écrit par celui qu'on nomme De Fers en Or, un article intitulé « Une fable sur l'impunité policière ». Alors un titre qui a mérité la première page, parce qu'il y avait un citoyen qui a filmé un policier, les culottes baissées, mais les centaines de victimes qui communiquent avec la presse pour dénoncer la brutalité policière, pourquoi ne sont pas pris au sérieux? Aucun journaliste, je dis bien aucun journaliste, ne voulait répondre à leur demande. Pourquoi? Parce que leur parole ne vaut rien face à la parole d'une ordure de policier qui va mentir comme il respire. Je dis bien, de façon or, mon œil, l'or, semble-t-il, veut se briller davantage sur le dos des victimes. J'ai appris par le nombre d'années au service des victimes de la brutalité policière et des injustices que les policiers sont des menteurs par excellence. Alors ne venez pas raconter le contraire, les policiers sont encouragés d'être menteurs, d'être abuseurs, d'être des fraudeurs, agresseurs, manipulateurs, j'en passe. J'affirme en même temps qu'il y a un nombre restreint de policiers ici, à travers le Québec, qui sont honnêtes et qui font leur travail à la perfection. Je dis merci à ces policiers qui ont compris que l'abus de pouvoir n'est qu'une sorte d'ignorance, une sottise, une bêtise qui fait honte. La brutalité policière ne devra pas exister dans notre société, tout simplement. Voilà, chère auditrice, cher auditeur, permettez-moi de fermer cette parenthèse, même si j'ai envie, comme plusieurs le souhaitent en ce moment, de continuer sur cette lancée, puisque l'injustice a pris le dessus de le bon sens de la justice. Nous vivons dans des sociétés de plus en plus ignorantes, où la plupart des citoyens ne prêtent pas attention à ce qui se passe autour d'eux. Ils pensent que les injustices qui détruisent les autres citoyens ne les concernent tout simplement pas et combien ils en dorment. Chère auditrice, cher auditeur, ce matin, nous allons rendre hommage à une personne qui vient juste de nous quitter pour de bon. Alors, c'est un homme que nous avons eu l'honneur d'inviter dans cette émission à deux reprises, un homme un peu particulier, je dis bien un peu particulier, par le vécu et le combat de 41 ans qu'il a mené au cours de sa vie. Alors, cet homme qui vient de le quitter dans un silence de plomb a vécu une vie de misère, remplie d'injustice, et ceci depuis sa naissance. Cet homme appartient à ce chiffre de 3000 enfants qui, dans les années 40 et les années 50, étaient enlevés de force à leur mère le jour même de leur naissance. Pourquoi, à votre avis, chère auditrice, chère auditeur? Parce que l'Église les a déclarés tout simplement illégitimes d'avoir été venus au monde d'une relation hors mariage. Internés, ce n'était pas assez. Alors qu'est-ce que va faire l'État? L'État les déclare à son tour faussement, je dis bien, les déclare faussement des déficients mentaux. Et les enfants, ça veut dire que c'est des enfants à rien faire. Et à partir de là, chère auditrice, chère auditeur, la porte de l'enfer était grandement ouverte pour accueillir ces enfants qui n'ont commis aucun péché, sauf celui d'être nés dans une société de pourriture. Alors, chère auditrice, chère auditeur, l'homme à qui nous rendons hommage ce matin, il s'appelle M. Jean-Guy Labrosse. Alors, il appartient au nombre de ces orphelins. Il a vécu malheureusement cette descente à l'enfer, agressé sexuellement à répétition depuis son plus bas âge, jusqu'à peut-être même à l'adolescence. Il est esclave au propre terme. Il travaillait justement sur les fermes des airs de fou sans être aucunement rémunéré. Battu et traîné dans la misère de l'injustice de cette putain de vie, une fois adulte, il va tenter de revenir contre ses agresseurs. Un combat qui a duré, je dis bien qui a duré, 41 ans sans relâche. Mais avec un statut de débile mental, Jean-Guy Labrosse, comme le reste de la troupe, atteindre la justice était quasiment impossible pour lui. Il est mort, portant avec un goût amer de l'injustice. Il est mort après avoir souhaité d'être reconnu comme une personne entière, ce qu'il n'a jamais été. Chère auditrice, chère auditeur, l'Église a toujours refusé de lui apporter des excuses. Et le gouvernement du Québec avait trouvé, je dis bien, il a trouvé les moyens et les tournures pour mettre fin à ce dossier. D'une manière encore plus tragique, il a trouvé la force pour enterrer les aveux de ses enfants qui ont vieilli aujourd'hui et se trouvent à quelques mètres de la fin de leur vie pour des crimes, j'ai dit aussi des crimes contre l'humanité et des atrocités historiques. Le gouvernement du Québec va offrir à ses victimes, imaginez-vous, 15 000 $. Pour une putain de vie depuis la naissance jusqu'à la mort, le gouvernement offre combien ? 15 000 $. À chacun, à condition qu'il ferme la trappe pour de bon. Imaginez-vous, chère auditrice, chère auditeur, 15 000 $. Et le décret ministériel insiste sur le fait, une fois vous acceptez ce montant, vous ne pouvez en aucune manière revenir sur cette histoire. Porte close. Comment un gouvernement a pu trahir ses propres enfants? Comment un gouvernement a pu blesser encore une fois des victimes trop vulnérables dans ce stade de fin de vie? M. Jean-Guy Labrosse avait refusé de signer quoi que ce soit. Pour lui, c'était une insulte sans borne. Lui qui avait réclamé une pension de 2 500 $ mensuels, plus un rajustement de 10% par année jusqu'à ses derniers jours. Ici, chère auditrice, chère auditeur, il y a une question de vouloir reprendre un peu de dignité. Savez-vous c'est quoi la dignité? Mais le pauvre, justement, il est mort cette semaine en quête de cette putain de dignité qui lui a été enlevée sans droit aucun. Il m'avait dit à moi personnellement l'autre fois, le gouvernement scrute, je dis bien le mot scrute, la mort de chacun de nous. Une fois le dernier du troupeau tombe, une page sera définitivement tournée. Alors, chère auditrice, chère auditeur, je vous dis, il s'agit d'un homme un peu particulier. Il a voulu défier ses agresseurs et de ce côté sombre de l'État. Voilà pourquoi il a quand même écrit, je dis bien, il a écrit 2 livres. Alors, il a écrit le premier livre qui est intitulé « Ma chienne de vie ». Et le second, il était intitulé « L'orphelin esclave ». Vous les trouvez, ces 2 ouvrages, dans les grandes bibliothèques. Les 2 titres résument assez bien l'histoire des orphelins de Tbilissi. Cette période un peu, je dis bien, un peu trop dégueulasse même, que tous les gouvernements successifs du Québec tentent d'enterrer et ne plus entendre parler d'elle. Les gouvernements n'avaient jamais le temps de se mettre en face de cette tragédie humaine qui a secoué le Québec dans les années 40 et 50. Alors voilà, donc voir ces escapés des orphelins de l'État meurent dans la misère et l'indifférence sans aucun sentiment de culpabilité, ça nous choque, chère auditrice, chère auditeur. Ça nous choque parce qu'on n'a pas pu être à leur place. J'ai appris, chère auditrice, chère auditeur, que l'équipe de Radio-Canada, imaginez-vous, l'équipe de Radio-Canada était présente lors de l'enterrement. Si jamais, je dis bien, si jamais M. Jean-Guy Labrosse avait cette possibilité de se lever de sa tombe, il l'aura craché dans le visage de ces gens-là, de ces journalistes, lui qui avait passé toute sa vie à solliciter les médias pour l'inviter à discuter de cette page d'histoire, et aucun d'eux n'a voulu lui prêter le minimum d'attention. Mais une fois le feu de cet homme est refroidi, ces hyènes, je dis bien ces hyènes, ces chacals se sont précipités autour de son cadavre. Savez-vous pourquoi? En premier, l'homme ne pouvait rien ajouter, bien sûr, il est mort. Ne pourrait rien reprocher en second. Et en second, justement, ces chacals vont pouvoir dire que eux, je dis bien, ils vont pouvoir dire ce que eux veulent entendre dire. Vous voyez, chère auditrice, chère auditeur, nous vivons dans des sociétés hautement hypocrites. La justice est réservée pour les puissants. Et madame et monsieur, tout le monde risque d'être victime d'une injustice à tout moment. Voilà, chère auditrice, chère auditeur. Une partie, justement, de la mémoire des orphelins de Tbilissi vient de s'éteindre. Elle est enterrée cette semaine à Belle-Oeil, en bordure de la rivière Richelieu. Alors, pour ces hommes courageux qui ont défié les injustices avec le peu de moyens, je dis, avec le peu de moyens, sinon la parole, je lève mon chapeau, et en particulier ce matin, à M. Jean-Guy Labrosse. Au micro avec vous, ce matin, Adjel Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer la rabie de pouvoir. Autour de moi, sur ce plateau, j'ai M. Sylvain Paget, donc c'est Lepage, Sylvain Lepage. Alors, il est plus qu'un ami pour Jean-Guy Labrosse. Il a partagé avec lui des moments très difficiles. Il est venu nous rappeler qui était cet homme-là. J'ai également en face de moi M. Jean-Noël Mathieu, orphelin et ancien membre de MAJ. Il connaît très bien Jean-Guy Labrosse. Il a insisté d'être lui aussi pour rendre hommage justement à cet homme-là. J'ai également, je suis très honoré aussi d'avoir M. Lionel Lambert. Lui aussi, c'est un orphelin qui a subi d'atrocités dans ce clan des orphelins de Plessis. Il est également, il a été un petit peu malade, très malade, mais il a quand même insisté de venir. Il est avec nous ce matin. Alors voilà, chère auditrice, cher auditeur, je dis bien avec beaucoup d'émotion, je vous invite à rester à l'écoute. Cette semaine, la mort de Jean-Guy Labrosse, un orphelin de l'époque de Plessis, vient de s'éteindre. Nous voulons lui rendre hommage. Et de ces orphelins, il ne reste pas beaucoup. Hein, et l'État a hâte que le nombre se réduit à zéro. Après ce thème, notre thème musical, nous reviendrons avec les amis de Jean-Guy Labrosse.
Qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir,
poser après quand. Rebonjour, chers auditeurs. Chers auditeurs, alors vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans la société. Alors aujourd'hui, nous avons dit qu'on va consacrer, rendre hommage justement à Monsieur Jean-Guy Labrosse. Alors, il est né en 1939 et puis il vient de s'éteindre et il est mort cette semaine-là. Et Jean-Guy Labrosse, comme certains ne le connaissent pas, c'est un orphelin de Duplessis, celui justement qui a réveillé aussi
réveille des orphelins.
Alors, je peut-être la première question à M. Lionel Lambert, parce que M. Lionel Lambert, il a vécu aussi des atrocités aussi sans bornes aussi. Bonjour, M. Lionel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et venir aujourd'hui sur ce plateau-là, justement pour rendre hommage à M. Jean-Guy Labrosse. Pour vous, qu'est-ce que représente Jean-Guy Labrosse?
Jean-Guy Labrosse, il mérite plus.
Oui.
De rendre hommage.
Oui. Pourquoi
vous dites... compatriotes. Il a tellement souffert, ce gars-là.
Oui.
Il a vu nous autres, les orphelins, les orphelines. Il les a vus massacrer, travailler, sans aucun sou, ni apprendre la destruction. On le faisait travailler tout le temps.
Oui, parce qu'il m'a dit, lui, personnellement, qu'il avait... Et il parlait d'un livre, un esclave.
Esclave.
Et ça, il fait référence à
ma chaîne de vie.
Oui.
Après ça, c'était.
J'ai les livres.
Ouais.
Depuis 83 que j'ai eu ces livres à Charlie.
Oui.
1983.
Mais vous avez vécu, parce que lui, il a vécu, là, il s'était agressé, abusé. Écoutez, là, on peut ajouter, on parle d'un crime contre l'humanité, là.
Oui.
Ouais. Et vous avez. Partagé, vous avez vécu ce, à peu près ce qu'il a vécu, lui.
Oui, oui, oui. La même chose. Tous les orphelins, ils passaient au cash.
Ouais.
Ils nous prenaient pour des sœurs, là. C'est pas des anges.
Ouais.
Non, non. Il y en a, ça, c'était correct.
Ouais.
Mais on a frappé des sucrés dans ça. À Salva, il y a ça, Charlotte Lefebvre. À Chambly, il était là, lui.
Oui.
C'est ça. Puis elle venait nous réveiller, puis elle venait nous pogner dans notre lit. Même dans le bain. Pour prendre mon bain.
Oui.
Elle est venue me pogner dans le bain. J'ai fait un saut. Oui. Je l'ai arrosé. Une fleur, il faut que ça soit arrosé.
Oui.
Puis elle est une mauvaise fleur, elle n'a pas l'arrosé, elle.
Mais ça, M. Donnelover, ça c'est un. Ça, ce qu'il nous disait, Jean-Guy Labrosse, quand il était là, il disait que c'était à répétition, et puis il a vécu ça toute son enfance, là. Ça a été dur, là. Hein. Il était marqué toute sa vie. C'est ça.
Ouais. Et puis, il n'y a pas été allé ça. J'ai été au. Après avoir été à Chambly, j'ai été au Buissonnet, jusqu'à l'île de la Place des Arts aujourd'hui.
Oui.
Ça, là, c'est agréable. Les rats, tout se promenait là-dedans.
Mm-hmm.
Les couvertures coulaient, il y a des enfants, des confrères, des familles pauvres, là. Leurs enfants le mouraient. La couverture coulait la nuit. On ne l'arrangeait pas.
Oui.
J'ai été obligé d'écrire au cardinal Léger pour faire sortir cette marde-là.
Mais vous étiez. Si on parle un petit peu... Attends, peut-être que je poserai la question à M. Lepage, c'est ça?
Oui.
M. Lepage, vous avez vécu avec...
Avec Jean-Guy, oui. Je l'ai connu pendant 25 ans.
Longtemps, j'imagine?
Une 25 ans.
Une vingtaine d'années?
Oui. 25.
25 ans. Alors, vous êtes la personne aussi qui était le plus proche.
Oui.
Je sais que ça vous affecte beaucoup.
Moi, j'ai perdu un très grand ami.
Un grand ami, oui, c'est ça sûr.
J'ai même été... chanceux de le côtoyer. Puis de...
Vous voyez que vous étiez chanceux de le côtoyer, de le
connaître. Ah, oui, vraiment.
C'est... Alors, comment vous pouvez décrire cet homme-là qui...
C'est un homme qui n'aimait pas les manigances. Pour lui, il n'y avait pas de temps à prendre avec ça.
Ouais. Il avait un caractère.
Oh, il ne faisait pas du tout attaque aux orphelins ou à ces choses-là, parce que là, il n'a pas de bonne humeur. Et puis, c'était un homme qui était. Qui avait un grand cœur, puis qui.
Il détestait
Il vivait ses moments de joie de compagnie, de bonne compagnie en orphelin ou autre, comme si c'était les derniers instants. Tellement que ces putains qui avaient le rire, c'était pareil. Tellement ces gens-là ont souffert. Alors, tant qu'ils ont du plaisir, il n'y a rien d'autre que ça qui se passe.
Sur la page,
ils le vivent à 100%.
Devant vous, là, vous avez vu, je pense que vous étiez à côté quand il a rédigé ces livres-là, ces deux ouvrages.
Non, j'ai vu, j'ai connu son... Lui, je l'ai connu en 89, Jean-Guy, en novembre.
Ouais, mais les livres, c'était écrit avant?
Oui. Son autre livre, était, je crois que c'était peut-être 83, lui, qu'il avait dit. L'Holocauste sous le régime de Duplessis.
C'est
là que j'ai lu ce deuxième livre-là. Non, c'est le troisième. Parce que le deuxième, c'est
mon chien de vie. Tombe
1,
tombe
2,
hein?
Oui, non, non. On a deux, si on peut dire, le tombe 2, c'est en réalité, c'est Esclave de notre monde. Okay, ouais. Ça, c'est quand il est sorti des institutions.
C'est le sénateur Hébert qui l'a écrit.
Ah,
c'est le sénateur de Bay qui a
non, lui, il avait écrit son livre.
Ben, la brosse.
Non.
Selon suite à la suite de
ben,
l'histoire.
Dire, il a écrit sa vie, ça. Il était ensemble. En tout cas, quand il a fait, tu parles de machine de vie, là, moi, là.
C'est lui qui l'a écrit.
Oui, c'est ça.
C'est Jean-Guy qui l'a écrit. Jean-Guy qui l'a écrit.
Puis lui, là.
Il l'a enlevé, mais il a laissé des.
Ouais, en tout cas. Je sais que le sénateur Hébert était dans ça.
Ouais.
Moi, je peux vous dire.
Ça veut dire que c'est lui qui l'a fait publier.
Moi, je vais vous dire une affaire.
Journal Mathieu, oui.
Moi, j'ai connu Jean-Guy. J'étais à l'orphelinat de la même place que lui. J'ai vécu les mêmes places que lui. Les terres agricoles, les abus. Moi, la seule chose, j'ai pas eu d'abus sexuels. Mais j'ai tous les abus qu'on peut imaginer, de l'esclavage, tout. Pas d'école, pas rien. Et puis, une bonne journée, un ami qui m'a dit, il y a un livre qui est sorti. Parce que personne n'entend parler des orphelins du Plessis. Personne, ça se parle pas. Jusqu'à un moment donné, j'ai aperçu ce livre-là à la bibliothèque du Collège militaire royal de Saint-Jean, donc où je travaillais.
Et là, vous voyez la photo de...
Et puis là, c'est un ami qui dit, tu connais tout ça, ce gars-là? Il dit, viens de la crèche Jouville. Là, je regarde Jean-Guy Labrosse. Ça me disait rien. Ah, mais quand j'étais enfant. Et puis là, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, Je me reconnaissais dans ce livre-là.
Votre vie, là.
Mais j'ai dit, bon, Dieu, patin, je me pensais tout seul. Mais c'est donc pas vrai, là. Et là, j'ai tout fait retrouver Jean-Guy. Je l'ai retrouvé. J'ai fait des démarches pour le retrouver. Et à partir de là...
Vous l'avez rencontré?
Ben oui, ouais. C'était un jeune gamin. Ouais. Il m'a dit, il dit, et c'est là qu'il a dit qu'il voulait essayer de regrouper les orphelins. C'est les mettre la map, on n'était pas là, nous autres, ouais. Ça existait. Et c'est lui qui a parti ça. Il a parti ça, ça faisait dans les années 60.
64.
64. Et puis il a parti ça. Et puis ça a grossi, là. Ça a grossi. Jusqu'à un moment donné, un nommé M. Bertrand, F. Bertrand, il a décidé d'essayer, par les journaux, d'être capable de regrouper ces orphelins-là, pour avoir un aperçu de toute la vie de ces enfants-là.
Oui.
Et ça, c'est grâce à, justement, à Jean-Guy Labrosse. Et puis ça, moi, je veux dire une affaire. J'ai travaillé avec Jean-Guy. Parce que j'étais un combatif, là, moi. Quand j'ai vu Jean-Guy, là, j'ai dit, voilà, t'as un gars qui est capable de te suivre. Et puis je l'ai aimé parce qu'il était franc, honnête, puis il n'y avait aucune hypocrisie.
Mm-hmm.
Puis tu pouvais y faire confiance, il n'y avait pas de danger. La seule chose qui me fait de la peine, c'est quand j'ai reçu un téléphone cette semaine, la semaine passée, qui était mort, qui était décédé. Et puis, j'étais arrivé au salon, j'ai vu la tombe. C'était toute une tombe.
Ah, oui.
C'était quelque chose de bien. J'ai dit, enfin, il y a quelqu'un qui l'a reconnu, tu sais. Il était traité aux petits oignons. Cette valeur, ça s'est fait quand il est décédé.
Oui.
Mais puis donc, c'est son ami qui l'a. Il l'a traité aux petits oignons.
C'est ça, monsieur.
Monsieur Lepage.
Monsieur Lepage, oui.
Et puis, je regardais ça, puis je me disais à moi-même, tu le mérites, Jean-Guy. Mais qu'est-ce qui me fait le plus de peine? C'est le gouvernement. Comme vous avez dit dans votre
introduction, oui.
Oui, vous avez dit que le fameux 15 000, je me suis battu avec Jean-Guy, on s'est battu avec ça. Vous n'avez aucune idée. On a été flochés. Tous les orphelins agricoles, tous les orphelins handicapés, il y avait deux groupes d'orphelins, les orphelins agricoles et les orphelins internés.
Ouais.
Les internés, eux autres ont eu des, bon, selon les années qu'ils étaient en prison,